Chapitre 7. Surcharge mémorielle. L'évolution n'a pas pourvu les hommes de la capacité de jouer au football. Certes, elle nous a donné des jambes pour frapper, des épaules pour donner des coups irréguliers et des bouches pour jurer. Mais cela ne nous permet jamais que de tirer des pénaltys tout seul. Pour entrer dans une partie avec les inconnus que nous trouvons dans la cour de l'école, n'importe quel après-midi, il nous faut non seulement travailler de concert avec 4 coéquipiers que nous n'avons sans doute encore jamais vus, mais aussi savoir que les 11 joueurs de l'équipe opposée suivent les mêmes règles. Les autres animaux, qui affrontent des inconnus dans des formes d'agression ritualisées, le font largement d'instinct. Les chiots du monde entier se chamaillent en suivant des règles inscrites dans leurs gènes. Or, les ados humains qui n'ont pas de gènes du foot n'en peuvent pas moins jouer avec de parfaits inconnus, parce que tous ont appris des idées identiques sur le foot. Des idées largement imaginaires, mais du moment que tout le monde les partage, nous pouvons tous y jouer. Il en va de même à plus grande échelle pour les royaumes, les églises et les réseaux commerciaux, à une différence de taille près. Les règles du foot sont relativement simples et concises, assez comparables à celles qui sont nécessaires à la coopération dans une bande de fourrageurs ou dans un petit village. Chaque joueur peut aisément les emmagasiner dans son cerveau et garder de la place pour les chansons, les images et les listes de courses. En revanche, les systèmes de coopération qui impliquent non pas 22 mais des milliers voire des millions d'êtres humains nécessitent de manier et de stocker d'énormes masses d'informations, bien plus qu'un cerveau d'homme n'en peut contenir et traiter. Si les grandes sociétés que l'on trouve dans d'autres espèces, comme les fourmis et les abeilles, sont stables et résilientes, c'est que la plupart des informations nécessaires pour les faire vivre sont codées dans le génome. Une larve d'abeille femelle peut se développer en reine ou en ouvrière suivant ce qu'elle ingère. Son ADN programme les comportements nécessaires pour les rôles qu'elle sera appelée à tenir dans la vie. Les ruches peuvent être des structures sociales très complexes, contenant de multiples catégories d'ouvrières, butineuses, nourrices ou nettoyeuses. Jusqu'ici, pourtant, les chercheurs n'ont pas réussi à repérer des avocates. Les abeilles n'en ont aucun besoin parce qu'il n'y a aucun risque qu'elles tentent d'oublier ou de violer la constitution de la ruche. La reine ne floue pas la nettoyeuse de sa nourriture et elles ne se mettent jamais en grève pour obtenir des augmentations de salaire. Les humains, en revanche, passent leur temps à faire des choses pareilles. L'ordre social sapiens étant un ordre imaginaire, les hommes ne sauraient préserver les informations critiques pour le diriger en faisant simplement des copies de leur ADN et en les transmettant à leur progéniture. Un effort délibéré doit être consenti pour faire vivre les lois, les coutumes, les procédures et les mœurs, sans quoi l'ordre social aurait au fait de s'effondrer. Par exemple, le code d'Hammurabi décréta que les hommes se composent d'hommes libres, d'hommes du commun et d'esclaves. À la différence du système de classe de la ruche, ce n'est pas une division naturelle. Il n'y en a pas la moindre trace dans le génome humain. Si les Babyloniens avaient été incapables de garder cette vérité présente à l'esprit, leur société eût cessé de fonctionner. De même, quand Hammurabi transmit son ADN à son fils, celui-ci ne comprenait pas la décision de son père de réclamer 30 sicles d'argent à un homme libre qui a tué une femme du commun. Hammurabi dut délibérément transmettre les lois de son empire à ses fils, à charge pour eux et ses petits-fils d'en faire autant. Les empires engendrent d'énormes quantités d'informations. Au-delà des lois, les empires doivent tenir les comptes des transactions et des impôts, des inventaires de leur matériel militaire et des navires marchands, ainsi que des calendriers des fêtes et des victoires. Des millions d'années durant, les hommes ne stockèrent l'information qu'à un seul endroit, leur cerveau. Malheureusement, le cerveau humain n'est pas un bon moyen de stockage pour les bases de données de la taille d'un empire. Il y a à cela trois raisons. Premièrement, le cerveau est d'une capacité limitée. Certes, d'aucuns sont doués de mémoire stupéfiante, et dans les temps anciens, il y avait des professionnels de la mémoire qui pouvaient emmagasiner la topographie de provinces entières et les codes de loi de plusieurs États. Il est néanmoins une limite que les mnémonistes les plus doués ne sauraient dépasser. Un juriste pourrait savoir par cœur tout le code de loi du Commonwealth du Massachusetts, mais pas les détails de toutes les procédures engagées dans cet État depuis le procès des sorcières de Salem. Deuxièmement, les hommes meurent, et leur cerveau meurt avec eux. toute l'information stockée dans un cerveau sera effacée dans moins d'un siècle. Il est bien entendu possible de transmettre des souvenirs d'un cerveau à l'autre, mais à la suite de quelques transmissions, l'information a tendance à s'embrouiller ou à se perdre. Troisièmement, et c'est le plus important, le cerveau humain a été fait pour stocker et traiter uniquement des types d'informations bien particuliers. Pour survivre, les chasseurs-cueilleurs anciens devaient se souvenir des formes, des qualités et des comportements de milliers d'espèces végétales et animales. Ils devaient se souvenir qu'un champignon jaune fripé poussant l'automne sous un orme est très probablement vénéneux, mais qu'un champignon semblable qui pousse l'hiver sous un chêne est un bon remède quand on a mal au ventre. Les chasseurs-cueilleurs devaient aussi garder présentes à l'esprit les opinions et les relations de plusieurs douzaines de membres de leur bande. Si Lucy avait besoin de l'aide d'un membre pour convaincre John de cesser de la harceler, autant se souvenir que John avait rompu la semaine passée avec Marie, qui pouvait donc être une alliée enthousiaste. Les pressions de l'évolution ont ainsi adapté le cerveau humain au stockage d'immenses quantités d'informations botaniques, zoologiques, topographiques et sociales. Mais, quand à la veille de la révolution agricole commencèrent à apparaître des sociétés particulièrement complexes, un nouveau type d'information entièrement nouveau devint vital, les chiffres. Les fourrageurs ne furent jamais obligés de manipuler de grosses quantités de données mathématiques. Un fourrageur n'avait aucun besoin de se rappeler le nombre de fruits sur chaque arbre de la forêt. Le cerveau humain ne s'adapta donc pas au stockage et au traitement des chiffres. Pour garder un grand royaume, en revanche, les données mathématiques étaient capitales. Jamais il ne fut suffisant de légiférer et de raconter des histoires sur les dieux tutélaires. Il fallait aussi collecter des impôts. Pour taxer des centaines de milliers de gens, il était impératif de recueillir des données sur leurs revenus et possessions, sur les paiements effectués, sur les arriérés, les dettes et les amendes, les remises et les exonérations. Tout cela faisait des millions d'éléments à stocker et à traiter. Sans cette capacité, l'État n'aurait jamais su de combien de ressources il disposait ni quelles ressources supplémentaires il pouvait exploiter. Face à la nécessité de mémoriser, de se rappeler et de manipuler tous ces chiffres, la plupart des cerveaux humains faisaient une overdose ou s'endormaient. Cette limite mentale faisait peser une contrainte sévère sur la taille et la complexité des collectivités humaines. Quand le nombre d'hommes et la masse des biens dépassaient un seuil critique dans une société particulière, il devenait nécessaire de stocker et de traiter de grosses quantités de données mathématiques. Le cerveau humain, en étant bien incapable, le système s'effondrait. Des millénaires durant, après la révolution agricole, les réseaux sociaux restèrent relativement petits et simples. Les premiers à surmonter le problème furent les Sumériens, dans le sud de la Mésopotamie. Le soleil de plomb qui s'abattait sur les riches plaines limoneuses assurait des récoltes abondantes et des cités prospères. Avec la croissance démographique, s'accrut aussi la quantité d'informations nécessaires pour coordonner leurs affaires. Entre 3500 et 3000 avant notre ère, pour stocker et traiter des informations hors de leur cerveau, des génies sumériens, inconnus, inventèrent un système élaboré permettant de traiter de grosses quantités de données mathématiques. Ce faisant, les Sumériens parvinrent à soustraire leur ordre social aux limites du cerveau humain, ouvrant la voie à l'apparition des villes, des royaumes et des empires. Le système de traitement des données inventé par les Sumériens est ce qu'on appelle l'écriture. Signé Kouchim. L'écriture est une méthode de stockage de l'information à travers des signes matériels. Le système d'écriture sumérien y parvint en mêlant deux types de signes, pressé sur des tablettes d'argile. Un type de signe représentait les chiffres. Il y avait des signes pour 1, 10, 60, 600, 3600 et 36000. Les Sumériens employaient une combinaison de systèmes de numération de base 6 et de base 10. Leur système de base 6 nous a laissé plusieurs héritages importants comme la division du jour en 24 heures et celle du cercle en 360 degrés. L'autre type de signe représentaient des hommes, des animaux, des marchandises, des territoires, des dates, et ainsi de suite. En mêlant les deux types de signes, les Sumériens réussirent à préserver plus de données que n'importe quel cerveau d'homme n'en pouvait mémoriser ou que n'importe quelle chaîne d'ADN n'en pouvait coder. À ce premier stade, l'écriture était limitée aux faits et aux chiffres. Le grand roman sumérien, s'il existe à jamais, ne fut pas livré aux tablettes d'argile. Écrire prenait du temps et le lectorat était infime, en sorte que nul ne voyait de raison de s'en servir à une autre fin que la tenue des archives essentielles. Si nous recherchons les premiers mots de sagesse venus de nos ancêtres, voici 5000 ans, nous allons au-devant d'une grosse déception. Les tout premiers messages que nos ancêtres nous aient laissés sont du style 29 086 mesures orge, 37 mois, Kushim. Très probablement, faut-il comprendre, un total de 29 086 mesures d'orge a été reçu en 37 mois, signé Kushim. Sur cette tablette d'argile de la ville d'Uruk, datant de 3400-3000 avant notre ère, Kushim est peut-être le titre générique d'un dignitaire, ou le nom d'un particulier. Si Kushim était bel et bien une personne, c'est peut-être le premier individu dont le nom nous soit connu. Tous les noms antérieurs de l'histoire humaine, Néandertal, Natufien, Grotte Chauvet ou Göbekli Tepe, sont des inventions modernes. Nous n'avons pas la moindre idée du nom que les constructeurs de Göbekli Tepe donnaient au site en question. Avec l'apparition de l'écriture, nous commençons à entendre l'histoire à travers l'oreille de ses protagonistes. Quand ses voisins l'appelaient, il criait réellement « Kushim ». Il est significatif que le premier nom attesté de l'histoire appartienne à un comptable plutôt qu'à un prophète, un poète ou un conquérant. Malheureusement, les premiers textes d'histoire ne contiennent ni aperçus philosophiques, ni poésie, ni légende, ni loi, ni même triomphes royaux. Ce sont de banals documents économiques enregistrant le paiement des taxes, l'accumulation des dettes et la propriété de tel ou tel bien. Un seul autre type de texte nous est parvenu de ces temps anciens, et il est encore moins excitant. Liste de mots inlassablement recopiés par des apprentis scribes en guise d'exercice de formation. Même si un élève qui s'ennuyait avait voulu coucher par écrit quelques-uns de ses poèmes plutôt qu'un acte de vente, il n'aurait pu le faire. La toute première écriture sumérienne était partielle plutôt que complète. Une écriture complète est un système de signes matériels qui peut représenter plus ou moins la totalité du langage parlé. Elle peut donc exprimer tout ce que les gens peuvent dire, y compris la poésie. L'écriture partielle, en revanche, est un système de signes matériels qui peut représenter uniquement des types particuliers d'informations relevant d'un champ d'activité limité. L'écriture latine, les hiéroglyphes égyptiens et le braille sont des écritures complètes dont on peut se servir pour écrire des registres fiscaux, des poèmes d'amour, des livres d'histoire, des recettes et des textes de droit commercial. À l'opposé, la toute première écriture sumérienne, comme les symboles mathématiques modernes et la notation musicale, sont des écritures partielles. On peut faire des calculs avec l'écriture mathématique, mais pas écrire des poèmes. Que leur écriture ait été mal adaptée à la poésie ne dérangeait pas les Sumériens. Ils l'inventèrent non pas pour copier le langage parlé, mais pour faire ce dont celui-ci était incapable. Certaines cultures, comme celle des Indes précolombiennes, ne se servirent tout au long de leur histoire que d'écriture partielle. Nullement perturbées par les limites de leur langage, elles n'éprouvaient pas le besoin d'une écriture complète. L'écriture andine était très différente de son homologue sumérien. En vérité, elle était à ce point différente que beaucoup diraient qu'elle n'était pas du tout une écriture. Elle ne s'écrivait ni sur des tablettes d'argile, ni sur des bouts de papier, mais en faisant des nœuds sur des cordes colorées, les quipous. Chaque quipou consistait en multiples cordes de laine ou de coton et de couleurs différentes. Sur chaque corde, divers nœuds étaient noués à des places différentes. Un même quipou pouvait compter des centaines de ficelles et des milliers de nœuds. En combinant divers nœuds de ficelles aux couleurs différentes, il était possible d'enregistrer de grosses quantités de données mathématiques relatives, par exemple, à la collecte des impôts ou à la propriété. Pendant des centaines, voire des milliers d'années, les quipous ont été essentiels aux affaires des cités, des royaumes et des empires. Leur potentiel fut pleinement exploité sous l'Empire Inca, qui dirigeait 10 à 12 millions d'habitants et correspondait au territoire actuel du Pérou, de l'Équateur, de la Bolivie et de certaines parties du Chili, de l'Argentine et de la Colombie. Grâce aux quipous, les Incas pouvaient sauvegarder et traiter de grosses quantités de données sans lesquelles ils n'auraient pu faire tourner la machine administrative complexe que nécessitait un empire de cette taille. En réalité, les quipus étaient si efficaces et précis que dans les premières années qui suivirent la conquête de l'Amérique du Sud, les Espagnols eux-mêmes y recoururent pour administrer leur nouvel empire. Le problème était qu'ils ne savaient pas faire des quipus ni les lire, ce qui les mettait à la merci de professionnels. Les nouveaux maîtres du continent se rendirent compte que cela les plaçait dans une position précaire. Les spécialistes indigènes des quipus pouvaient aisément les égarer et tromper leurs suzerains. Sitôt la domination de l'Espagne solidement établie, les quipus furent écartés au profit de l'écriture et des chiffres romains. De très rares quipus survécurent à l'occupation espagnole, mais ils demeurent indéchiffrables puisque malheureusement, l'art de lire les quipus s'est perdu.